I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, le cinéma. Cette émission est préparée par Aïssa Toundoy, Lucille Como, Boris Pino et Camille André. Prise de son assurée ce soir par Pierre Monteil, Ludivine Caron, Stéphane Touvenin et Sofiane Actim. Réalisation Thomas Beau. Et autour de moi ce soir, en public au bar Le Bel Air, le bar de la maison de la radio, Charles Garçon et Muriel Joudet, puisque Philippe Azoury en fait avait piscine, il nous a un petit peu oublié. On va parler ensemble ce soir de Transit de Christian Petzold, Nobody's Watching de Julia Solmonoff et Mila de Valérie Massadian. Il y aura aussi un coup de cœur et un coup de griffe qui se sont ajoutés in extremis, puisque Philippe Azoury nous a fait faux bond il y a assez peu de temps. Boris Pino est là, qui va surveiller quand même les films Twitter et Facebook pour donner à entendre les commentaires que vous pourriez faire sur les films à notre sommaire. Et puis toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour l'exposition Couple Moderne qui se déroule au Centre Pompidou Metz jusqu'au 20 août. Christian Petzold a signé notamment Yella, Jericho, Barbara ou Phoenix, film dont nous avons, je crois, à peu près tous parlé ici, enfin dans cette émission, dans celle que nous faisions avant, et qui ont révélé ces films au public français. La comédienne Nina Hoss, qui a depuis d'ailleurs rejoint la troupe de la Schaubühne pour jouer sous la direction de Thomas Ostermeyer au théâtre, on en a parlé aussi. Le cinéaste allemand, lui, de retour sans Nina Hoss, mais avec Paul Haber, qu'on avait vu dans le film de François Ozon, Franz. Christian Petzold qui transpose ici un roman d'Anna Segers qui se situait à Marseille en 1940, qui s'intéressait à celles et ceux qui fuyant les nazis cherchaient à quitter l'Europe. Le cinéaste, alors moi j'ai pas encore vu le film mais sa bande-annonce, n'a pas choisi la reconstitution historique mais situe l'action à Marseille, toujours, mais de nos jours.
Papier s'il vous plaît.
Ils sont en train de ratisser tout le quartier, immeuble par immeuble.
Il est là!
Ich muss mal mit deiner Mama reden.
Ich bin ein Freund von ihrem Mann. Wir waren auf dem Weg hierher. Er ist tot.
Je viens pour les dossiers Weidel.
Weidel, l'écrivain?
Oui.
Le consul vous attend.
Also beeilen Sie sich und besorgen Sie sich die Transits für die USA und Spanien. Wie heißt Ihre Frau nochmal?
Ich muss weg hier.
Sie lieben den Jungen, das ist doch offensichtlich.
Sie lieben ihn und doch lassen Sie ihn zurück.
Er ist nicht mein Sohn.
Was spielt das für eine Rolle?
Die bauen schon die Lager in Aix und Cassis und dann werden sie gleich mit den Säuberungen beginnen.
Marie!
Das ist deine Passage.
Wer vergisst schneller? Der Verlassene oder die, die ihn verlassen hat?
Transit de Christian Petzold est sorti sur les écrans mercredi dernier. Je ne l'ai donc pas encore vu pour ma part. Je crois pourtant que j'ai vu tous les films à ce jour, en tout cas de ce cinéaste qui m'intéresse. Mais j'étais très intrigué quand même par cette bande-annonce qui nous donne un contexte d'aujourd'hui pour parler d'une époque alors qui ressemble certes à aujourd'hui, mais quand même pas complètement. Mais Muriel Joudet, on peut commencer par là, parce que je suis très intrigué par le fait de choisir de situer aujourd'hui un film dont l'action du roman, en tout cas, était en 1940.
Oui, on a le droit de se demander pourquoi Petzold fait ça. Et moi, j'ai été plus qu'intriguée, embarrassée, même a priori. Je me suis dit, ah là là, très très mauvaise idée. Et ça se confirme pour moi, en tout cas, dès les premiers plans du film. Je me suis demandé, pendant 1h47, qu'est-ce qui est censé produire la friction entre donc cette intrigue venue du passé et cette ville, Marseille, d'aujourd'hui, enfin aujourd'hui, filmée aujourd'hui. Et pour moi, ça ne produit pas grand-chose, même si on comprend exactement où Petzold veut en venir, puisque... Oui. il convoque sans le dire, mais en tout cas en entretien, il le dit. C'est cette situation, cette intrigue, ce film censé faire écho à la situation des réfugiés en France. Et c'est censé nous titiller dans ce sens-là, sans que le film ne l'aborde. Donc moi, ça m'a fait penser à Coris Maki, qui dans Le Havre aussi faisait un film politique et qui en même temps faisait un film très naïf. Et
j'ai j'ai beaucoup aimé Le Havre. Alors si vous me dites ça, alors, ça non, me j'aime conforte.
J'aime beaucoup Coris Maki et même Le Havre. Quand on aime Coris Maki, on ne peut que aimer Le Havre, tout en trouvant que à partir du moment où voilà où Petzold et Coris Maki s'aventurent sur le terrain de la politique, ça devient un peu compliqué. Et donc en termes cinématographique et en termes de message, pour moi le film est totalement inopérant, c'est-à-dire que je ne comprends pas ce que le film essaye de me dire ou ce qu'il essaye de métaphoriser en termes politiques. C'est d'une maladresse extrême et d'une naïveté politique qui est pour moi impardonnable dès le début. Donc à partir du moment où je ne suis pas avec le dispositif, où je ne le comprends pas, je ne peux pas adhérer au film. Alors, donc ça m'a fait vraiment violence dès le début et j'ai rejeté le film en bloc. Voilà. Là où je sauve quand même
Trois petits points, parce que justement sur cette question, peut-être avoir le sentiment de Charlotte Garçon tout de suite.
Alors effectivement, moi je me suis moins focalisée sur cet aspect, donc du coup je n'ai pas tellement vu une équivalence ou une allégorie d'aujourd'hui, mais plutôt un choix, j'allais dire un peu expérimental, de juxtaposer, c'est-à-dire une sorte d'anachronisme assumé, donc non pas maladroit, ni effectivement porté jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la métaphore ou à l'allégorie, mais on a les deux périodes qui coexistent visuellement dans Marseille d'aujourd'hui. On voit effectivement des CRS, on voit des camions de police, voilà, c'est tout à fait actuel. Et en même temps, il m'a semblé que c'était d'une part une question, alors je me trompe peut-être, mais d'une part une question économique pour un réalisateur, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il met en branle une production historique, c'est tout un autre type de légèreté.
Mais on se doute quand même que c'est pas, ça ne peut pas être que ça.
Oui, mais non, c'est en tout cas ça évite le côté rétro qui par exemple dans le film que vous avez cité, France, qui est déjà un remake d'un film de Lubitsch,
qui était assez atroce.
Voilà, qui sent vraiment le rétro.
Fausse patine.
Voilà. Donc là, on est du coup plus du tout là-dedans. Et moi, le film quand même n'a cessé de m'intriguer. C'est-à-dire que comme je ne l'ai pas rejeté en bloc à cause de ce décalage, j'y ai vu une sorte de juxtaposition qui fait qu'il y a une sorte de béance, effectivement, entre l'aujourd'hui et la situation où des juifs, puisqu'il y a des personnages juifs ou des dissidents, etc., sont poursuivis. Donc c'est véritablement la situation des années 40 qui n'est pas modifiée pour être adaptée à aujourd'hui. C'est pour ça que je pense que le film n'a pas de message sur la politique actuelle.
Les persécutés ne sont pas ceux d'aujourd'hui, ce sont ceux d'hier, ouais, dans le film de Petzold.
Oui,
Oui,
c'est-à-dire que bon, il y a un il générique dont ils sont aux portes de Lyon, ils arrivent à Marseille, etc. Mais le trajet est bien celui qui était celui de l'époque, c'est-à-dire de l'Europe arrivée en Amérique latine via les États-Unis. Donc il n'y a pas de tentative d'adaptation, disons, à l'aujourd'hui. Du coup, il y a une fracture, une sorte de faille comme ça qui fait que on est sur cette brèche si on accepte de continuer en tant que spectateur et qui nous rend attentif à ce qui est en train de se mécoller, ça n'existe pas, mais et qui est effectivement toujours une sorte d'abouchage qui ne fait pas sens et donc qui ne va pas jusqu'au message. Et pour moi, c'est plutôt satisfaisant. C'est-à-dire que du coup, que devient le romanesque quand on le met tout de même dans un aujourd'hui très très actuel, mais qu'on garde son côté quasiment ringard du côté très très littéraire des idées du romanesque. On est vraiment dans des clichés. Je vous donne un exemple, cette fameuse Marie, qui est jouée par cette jeune actrice, hein, beaucoup plus jeune que l'acteur principal. La façon dont elle apparaît la première fois, elle lui tape sur l'épaule, il y a une méprise, elle le prend sans doute pour son mari qu'elle recherche. Il se retourne, c'est pas lui. Bon. Et ensuite, elle revient plusieurs fois dans le même bistrot. Et c'est extrêmement artificiel, ces apparitions, ces passages des personnages. Mais justement, le mot passage, c'est vraiment un mot clé. On l'entendait dans la bande-annonce, il disait « Marie, voilà ton passage ». Le mot passage en allemand, là, dans ce qu'on a entendu, ça veut dire billet. Billet vers l'exil, autorisation de passage. Et cette question du passage, elle n'est pas seulement thématisée parce que les gens doivent transiter, c'est aussi la question du passage en littérature, c'est-à-dire de l'adaptation véritablement du côté transbordé du film. Et là encore, il me semble que l'intérêt de ce film est qu'il ne passe pas complètement du côté du cinéma. Donc on a une sensation de littérarité qui nous reste comme ça, comme une sorte d'agacement permanent, parce qu'il y a une voix off tout à fait inutile d'un point de vue de l'économie narrative du film, qui est celle d'un témoin secondaire, mais qui est quand même là, et dite en français par Darroussin, donc en plus on reconnaît la voix de Jean-Pierre Darroussin. Tout ça, autant de petites façons d'appuyer sur des sortes de blessures comme ça, et ça agace, et en même temps, pour moi, ça a été source de surprise en permanence, en fait.
Alors, pour vous, Muriel Jodé.
Non, mais je comprends tout à fait ce que dit Charlotte, et j'ai lu sur le film, et Petzold dit qu'il a voulu vraiment échapper au film historique, mais qu'il avait d'abord prévu un film historique. Et on comprend évidemment que pourquoi filmer dans le Marseille contemporain lui permet d'échapper à ce côté très figé, très reconstitution du film historique. Pour lui, on voit la solution qui est là. Et en même temps, j'ai le sentiment qu'au bout d'un moment, quand je mets de côté cette histoire d'occupation dans les années 40 qui est censée faire écho à la situation des réfugiés en France, je vois quand même une sorte d'académisme scénaristique qui revient. C'est-à-dire qu'il revient forcément, et j'ai l'impression d'être dans une sorte de petit théâtre où, comme vous le dites, Charlotte, tout semble figé. Il y a un côté très, très littéraire qui est mal géré par Petzold, et l'histoire en elle-même ne m'intéresse pas beaucoup, en fait. Même les acteurs, qui sont tous très bons, et je tiens à parler de ce Franz Rogowski, qui est absolument merveilleux, qui est d'une beauté affolante et qui est d'un charme et d'une précision incroyable. Enfin, il y a vraiment la naissance d'un acteur, parce que moi je ne l'avais pas vu ailleurs, qui fait que le film en lui-même vaut le coup d'œil rien que pour lui. Mais j'ai eu le sentiment, j'ai pensé à Casablanca, je ne sais pas, peut-être que vous y avez déjà pensé, et à Nuit Blanche de Dostoïevski, qui a été, Les Nuits Blanches de Dostoïevski, qui a été adapté par plein de cinéastes, et notamment par Vecchiali. Et c'est là que j'aimerais peut-être répondre à Charlotte sur le côté adaptation. C'est qu'il me semble qu'on peut tout à fait jouer de l'anachronisme d'une pièce de théâtre ou d'une nouvelle qui date du 19e, du 18e siècle et adaptée aujourd'hui. Mais là, il me semble que le sujet de l'occupation passe mal dans la contemporanéité. Enfin, il y a quelque chose qui, à mon avis, fait que Petzold a voulu forcément évoquer la situation des réfugiés et des migrants, tout en, bien sûr, restant très prudent. Mais pour moi, ça reste quand même d'une maladresse que j'ai eu du mal à avaler pendant 1h40.
Oui, presque une faute politique pour vous.
Une grande naïveté politique, c'est-à-dire que j'aurais préféré peut-être...
On n'imagine pas naïf, Christian Petzold, quand on voit sa filmographie, pourtant.
Mais c'est peut-être dans ses autres films qu'il
Charles Garçon.
Si on veut creuser un petit peu, il y a une sorte de chose récurrente dans ses autres films, et c'est le côté évanescent, je dirais, de l'identité. Ça me rappelle son film de 2000 qui s'appelle justement Contrôle d'identité, et je me demande si c'est pas celui qui s'appelle en allemand Die innere Sicherheit, la sécurité intérieure, avec toujours ces jeux de mots comme ça sur une intériorité qui est fluctuante parce que on est clandestin, parce qu'il y a des papiers, des substitutions, des faux papiers, on prend l'identité d'un mort, etc. Et en prenant, dans ce film-ci, le passeport d'un mort, on prend un peu sa mort. Enfin, on devient un peu ce fantôme aussi, même si on est très vivant, comme le personnage principal. Donc, il y a toujours ce côté évanescent de l'identité. Et il est vrai que, du coup, les clandestins, la vie clandestine dans les années 40 est un bon, disons, est une bonne époque pour ça, en même temps que la nullification, le déni d'identité envers les sans-papiers, on pourrait dire. Donc c'est peut-être là qu'il y a un croisement possible, et non pas, à mon avis, une recherche d'allégorie de l'un par l'autre, parce qu'effectivement, je ne pense pas qu'il ait cette maladresse politique là. Alors, ce qu'il y a de gênant, du point de vue politique, si on décide de regarder le film sous l'angle politique, c'est qu'en fait, le romanesque amoureux bouffe tout, dévore absolument tout, et c'est plutôt là qu'il faut accepter que l'amour et l'intrigue amoureuse, finalement, soient enflées par rapport au reste, quoi. Et c'est peut-être ça qui a fait aussi ce déséquilibre-là. Muriel Joudet, vous disiez naissance d'un acteur. Je pense que quand même, dans le récit, il y a surtout la naissance du personnage. Au début, d'ailleurs, on l'entend, comme il a une sorte de bec de lièvre, il parle de manière très renfrognée.
Il a un mouchoir dans la bouche.
Voilà. Et puis, de plus en plus, ça devient délié. La lumière, la façon dont il est filmé, on voit la couleur de ses yeux, marron clair. Enfin, quelque chose se déplie aussi de ce corps et de ce visage, et ça, c'est quand même écrit, c'est dans l'écriture de la mise en scène de, du film. Donc c'est quelqu'un qui, au départ, est vraiment un type vide, dans le sens où on lui fait passer des messages, il arrive, il constate, un tel s'est suicidé, etc. Il est là, il glandouille un peu dans l'urgence historique, alors qu'il y a une situation d'urgence. Il est vide, c'est une sorte de coquille vide, et puis plus le film avance et plus, en prenant l'identité d'un autre, à la fois il devient plus fantomatique et à la fois c'est plutôt dans des temps morts, dans des scènes qui sont apparemment des petites digressions qui vraisemblablement ne sont pas dans le roman, qu'il prend de la consistance. Et ça passe d'ailleurs par la relation avec un petit garçon bilingue. Parce que le film n'arrête pas de montrer des situations dédoublées. Hein, il y a toujours deux choses où l'enfant parle les deux langues, enfin deux retours dans, chez tel ou tel personnage. Donc c'est plutôt dans cette espèce d'impression d'embranchement perpétuel que le personnage, lui, s'affirme. Et ça, je trouve que c'est assez bien écrit, enfin, du point de vue à la fois de la mise en scène et à la fois de la construction narrative. De superposer une consistance et au contraire un embranchement perpétuel qui laisse croire qu'il y aurait un effritement de l'identité, alors que c'est en fait le contraire qui lui arrive aussi à ce personnage principal.
Ouais, Judy, vous voulez ajouter ?
Oui, non, peut-être sur la passion amoureuse qui prend beaucoup de place. Justement, c'est pour ça que ça m'a fait penser aux Nuits Blanches, c'est qu'il aurait dû en fait évacuer absolument et l'occupation et la possibilité d'une métaphore politique et la possibilité d'un film de gauche ou
tout ça. Il aurait dû faire un mélo, c'est tout.
C'est ça, parce qu'en plus il y a les acteurs, il y a la Marseille qui est quand même qui existe, qui est là, et c'est très sensuel, et pour le coup là où le film réussit, c'est que Marseille apparaît et est très bien filmé, et il y a aussi une sorte de d'opposition assez belle sur Marseille, ville lumineuse, ville chaude, et puis cette histoire disons un peu glauque. Mais pour moi, c'est une opposition qui, en fait, il aurait dû aller dans le sens de Marseille et raconter qu'une histoire d'amour, voilà.
Mais parce que l'amour permet, enfin, l'amour est quand même là pour montrer que si on n'est pas regardé, on est mort, en fait. Et on est mort, y compris historiquement et politiquement. Et elle, on ne sait pas si c'est une apparition, si, en tout cas, la dernière fois qu'il la voit. Et il y a une autre scène avec un autre personnage de femme en transit, une juive qui essaye de s'exiler, et où le jeu avec le hors-champ fait qu'il suffit que le personnage principal se baisse pour allumer sa cigarette, hop, cette femme-là, on va pas dire comment, mais a disparu. Et pour moi, ça, c'est, voilà, ça fait partie de ces petits moments du film qui montrent sans démonstration que ne pas être regardé avec un tout petit peu d'amour ou d'intérêt ou de désir vous condamne à la mort. Donc c'est là aussi où il y a quand même un entrelacement possible entre la situation historique et amoureuse.
Boris Pino, un commentaire sur les réseaux sociaux ?
Oui, sur Twitter, In Movies We Trust, écrit sur un parangon de mélancolie, film de fantômes qui ponctue une trilogie de la fuite impossible, expérience poignante.
Ah, poignante. Moi, j'ai envie d'aller voir Transit de Christian Petzold, qui est sorti mercredi dernier, parce que tout ce que vous avez dit laisse à penser que c'est quand même une grande richesse, même si on peut rester en opposition au film comme vous, Muriel Joudé, ça ne vous a pas empêché d'y voir beaucoup de choses. Donc, je vais y aller. Bon, peut-être pas ce week-end, parce que France Culture investit le Centre Pompidou et qu'on y sera beaucoup tout le week-end en début de semaine. Bon, à suivre dans la dispute, nous allons parler tout à l'heure de Nobody's Watching et Mila. Mais comme nous avons un peu de temps supplémentaire ce soir, grâce, on va dire ça, à l'absence des trois critiques prévues, on va commencer par un coup de cœur de Muriel Joudé. Et c'est un coup de cœur qu'on voulait d'ailleurs, dont on voulait parler dans le programme tout à fait officiel de la dispute. Ça tombe très bien.
François, j'ai pas payé le téléphone.
C'était fini, hein, vieux salopard.
Oh, le con.
Ça va, mon pote?
Un type qui dormirait 6 heures au lieu de 8 sur 50 ans. Tu sais combien il dort, combien il vivrait de plus? 4,16 années.
Je veux savoir comment ça va se passer.
pas vous, mon papa ?
Mais de quoi peut-il s'agir ? Alors celles et ceux qui l'aiment déjà auront reconnu, les autres, on va leur dire qu'il s'agit là de parler d'une intégrale. L'intégrale d'un cinéaste, une intégrale en trois films seulement, intégrale Jean-François Stévenin, qu'on connaît évidemment beaucoup comme comédien, on connaît aussi sa descendance sur les écrans. Il a réalisé Passe-Montagne en 1978, Double Messure en 1986 et Mishka en 2002. Alors du coup, il y a eu un coup de projecteur un peu particulier avec la disparition de Johnny Hallyday, qui avait fait une apparition tout à fait remarquable. C'est un de ses beaux rôles de cinéma, Muriel Joudet, on le rappelle.
Le plus beau rôle et puis le plus signifiant, j'en parlerai à la fin de mon discours. Mais...
Ah, vous avez un discours.
Oui,
c'est le discours de réception du prix Nobel et votre micro
et
en
micro,
tombe.
Dès que je dis que j'ai un discours, mon micro tombe, c'est parfait.
C'est un gag, mais heureusement que Sofiane Aktib est là pour le rectifier.
Donc Jean-François Stévenin, un acteur qu'on a vu partout, hein, qui a traversé des décennies et des décennies d'histoire du cinéma français, de son centre à sa marge, et qui a fait même tous les métiers possibles sur un tournage.
Alors, on change de micro en même temps que vous parlez. C'est
donc
de,
je continue
c'est
à parler,
super
c'est pas
production.
Grave. Voilà. Donc, il a été assistant de Rivette.
Clac, ça c'est le micro qui est
qui a joué chez Rivette, Truffaut, Mocky, Blier, Catherine Breillat, Éric Rochant, qui joue encore, qui va encore sortir des films, enfin, dans lesquels elle y joue, et qui a fait tout ce qu'on peut faire sur un tournage. Et moi, j'ai eu la chance de le rencontrer pour une interview, et c'est, pour comprendre Stévenin, il faut d'abord comprendre que c'est quelqu'un qui adore les tournages, qui, sa passion, c'est d'être sur un tournage. Donc, à partir de là, toutes les excuses sont bonnes pour être sur un tournage, et donc, il est forcément, très naturellement passé derrière la caméra, et a donc réalisé trois films qui donc, sont sortis en salle, il me semble, la semaine dernière, ou il y a deux semaines.
18 avril, oui. Il y a
et qui sortent en DVD, donc c'est bien d'en parler. Et ce qu'on peut attendre souvent d'un acteur qui se met au cinéma, c'est qu'il singe les cinéastes chez lesquels il a travaillé, et qu'il soit nourri d'influence. Et avec Stévenin, ce qui est assez particulier, c'est qu'on a un vrai monde autonome qui naît. On a un vrai cinéaste, et sa carrière me fait beaucoup penser à celle de Paul Newman, qui a traversé aussi l'histoire du cinéma américain, et qui a fait quatre films extrêmement personnels, extrêmement intimes, qui ne ressemblent pas du tout aux films dans lesquels Paul Newman a joué. Et donc voilà, il y a ce parallèle. Mais pour moi, Stévenin, physiquement, c'est un peu Jack Nicholson. Donc il y a déjà une sorte d'horizon américain qui se dessine et qu'on retrouve dans ces films. Alors de quoi sont faits ces trois films ? Ils sont très, très homogènes, même dans leur chaos. D'amitié masculine, Stévenin, cette très belle phrase, il dit « Les femmes sont tentantes, mais c'est toujours avec les hommes qu'on termine la soirée. » Et dans ces films, ça se sent. Il n'y a jamais de conjugalité malheureuse, de couple qui se déchire ou d'histoire d'amour. C'est toujours des histoires d'amitié
masculine.
Et puis, il y a le road movie, des lieux de transit, des fuites en avant. C'est une sorte d'école buissonnière permanente qu'on retrouve vraiment dans les trois films de façon très régulière. Et ce qu'on retrouve, c'est à la fois la France qu'on aime, c'est-à-dire la France des années 70, 80, le cambouis, les voitures.
La France qu'on aime, c'est celle qui ne l'a pas connue, vu son jeune âge.
C'est la France qu'on préfère, c'est celle qu'on n'a pas connue, mais qu'on a vue au cinéma, c'est toujours ça. Donc il y a Piala, d'un côté, il y a Blier aussi, les valseuses, mais sans le sens de la formule, du dialogue. C'est plus une approche behavioriste du jeu d'acteur.
Cassavetienne aussi.
Pardon ?
Ou Cassavetienne.
Exactement. Donc d'un côté Piala et de l'autre Cassavetes. Et Stévenin fait très très bien la liaison entre les deux. Cassavetes aussi Montielman. Donc c'est à la fois la France et l'Amérique. Et c'est surtout un désir très français d'Amérique. Et c'est là que Johnny apparaît, c'est que Johnny, qui est dans son dernier film, représente ça pour Stévenin. Moi, c'était très beau quand je l'ai interviewé. Il était chez son fils et à côté d'un miroir, il y avait très peu de meubles, très peu d'objets, mais il y avait Paris Match avec qui annonçait la mort de Johnny. Et j'ai trouvé ça extrêmement beau parce que Stévenin n'en a pas parlé en interview parce que c'est quelqu'un qui reste extrêmement joyeux, qui ne parle pas de ce qui le rend triste, de ce qui fâche, il reste dans la joie. Et il m'a dit Johnny, pour moi, c'est James Dean, c'est cette Amérique qu'on rêvait depuis la France. Et ces films, c'est exactement ça. C'est l'Amérique qu'on rêve depuis la France et puis la France aussi telle qu'on la rêve.
Voilà, j'imagine que c'est la fin de votre discours puisque vous avez parlé de Johnny, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
D'accord, c'était très très bien structuré. Charles Garçon, quelques mots sur Stévenin qu'on adore, Jean-François Stévenin.
Oui, je voudrais compléter en disant que si vous l'avez déjà entendu parler, c'est vrai qu'il a aussi lui-même, il est tellement truculent, il a toujours une autre histoire qui est dans l'histoire qu'il est en train de raconter et c'est extrêmement savoureux. eux. Et donc en janvier dernier, il y a eu une série de À voix nues sur France Culture où il raconte à la fois son enfance, à la fois sa cinéphilie très forte, ce qui lui est arrivé comme assistant aux États-Unis. Enfin, il raconte même son séjour et son tournage à Cuba. Enfin, voilà, il y a toujours des surprises à chaque nouvel épisode. Et puis un autre pour prolonger aussi ce côté buddy movie dont vous avez parlé, l'amitié masculine. Je voulais signaler la parution à la fin de l'année 2017 d'un livre fou qui parle presque comme parle aussi Stevenin, enfin en tout cas qui le cite parfois, avec une écriture assez saisissante. C'est un livre de son monteur, Yann Dedet, qui s'appelle Le point de vue du lapin, et qui raconte justement comment il est allé filmer, filmer avec Stevenin Passe-Montagne. Il ne raconte pas seulement le fait qu'il l'ait monté, mais véritablement cette aventure que ça a été, et ce que ça a été de suivre Stevenin dans son pays natal, parce que bien sûr que c'est les lieux qu'il rêve, mais c'est aussi des lieux qu'il connaît depuis longtemps, des paysans qu'il connaît depuis longtemps et avec qui il parle de manière tout à fait organique aussi. Et le livre, dans son écriture, retranscrit peut-être quelque chose de ce que serait le montage du cinéma dont vous parlez, c'est-à-dire du cinéma français des années 70, puisque Yann Dedet a été monteur non seulement pour François Truffaut, mais aussi pour Maurice Pialat, pour Philippe Garrel. C'est vraiment quelqu'un qui a réfléchi sur la question, j'allais dire, du vitalisme de ce cinéma des années 70, de comment, au tournage et au montage, ne pas perdre la vie, et même l'intensifier. Et c'est évidemment au cœur du travail de Jean-François Stevenin.
Le point de vue du lapin, le livre de Yann Dedet, est paru chez POL. L'intégrale Jean-François Stevenin, Passe-Montagne, Double Monsieur Mishka, est ressorti en salle depuis le 18 avril. Et puis les DVD arrivent. Et puis pour l'entendre aussi, Jean-François Stevenin, on se reportera au magazine Plan Large. Antoine Guillot, il était l'invité samedi dernier. Hein, c'est bien ça? Oui, Thomas Beau me confirme.
Il fait le tour de la France avec
cette... avec Antoine Guillot.
Avec cette rétrospective.
Avec ses films.
Donc voilà, on peut le croiser, il poursuit son road movie.
Oui, puis il a toujours envie de parler.
Sur une tondeuse à gazon, parce que dans le livre de Yann Dedet, il le voit sur une tondeuse à gazon électrique. Un peu comme le type dans le film de David Lynch.
Quoi. Straight Story de David Lynch.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Suite de cette dispute consacrée ce soir au cinéma, toujours en direct en public du Bel Air, le bar de la Maison de la Radio, on va parler de Nobody's Watching de Julia Solmonoff, qui prend pour point de départ l'errance ou l'arrivée, en tout cas à New York, d'une star d'une telenovela à succès dans son pays, un jeune comédien argentin donc qui décide de tenter sa chance dans la grosse pomme, avec l'espoir d'y tourner un film avec un cinéaste indépendant, un film qui doit absolument se faire, donc il a tout quitté pour ça. Et il survit tant bien que mal, surtout grâce à son travail de babysitter, mais évidemment sa vie est à un point de bascule et les choses ne sont pas simples.
I was in a prime time show for 2 seasons, Rivales. It played all over Latin America.
What made you come here?
I felt ready for a new challenge.
Cara fucking rey, no lo puedo creer. Es una productora muy importante de acá.
Aparte ahora mira, empiezo los ensayos con el director para la película.
Hola Nico, ya pasó mucho tiempo, ¿no? ¿Me llamas?
¿No extrañas que te saluden en la calle, que te reconozcan?
I want best actor.
Good. Well, the sad truth, Nico, is that nobody cares if you're a star in your own country.
I'm available next week.
Personne ne regarde, qui sort en France sous le titre de Nobody's Watching, qui s'appelle Nadia Smiera, assez logiquement. Charlotte Garçon, pour commencer.
Oui, j'espère que le titre du film ne sera pas
le nombre d'entrées en salle
de sa réception. Mais j'avoue que je suis un petit peu...
Quel est le mot ? Moi, je dirais partagé.
Non, même pas, pas tellement partagé. Ah, oui. C'est-à-dire que je n'ai vu dans ce film qu'une série de... une étude psychologique, disons, d'un personnage d'exilé, comme il y en a beaucoup, dans une très grande ville, sans pitié, qui est New York. Et donc, j'ai eu un petit peu de mal à m'intéresser aux mésaventures de ce jeune homme. Alors, il faut peut-être dire que donc il est argentin, mais blond. Et que ça lui joue des tours puisque cherchant à être employé comme acteur à New York, on lui dit bah oui tu vas et donc il comme il parle très mal anglais, il postule pour des rôles de latino, mais évidemment il a pas assez de muscles, de poils, etc. Selon les clichés de la virilité.
Il est beaucoup trop blond, beaucoup et trop, trop blanc de peau.
Donc il y a un petit côté comique dans le film, mais c'est tout de même pas la tonalité du film qui, à mon sens, reste un petit peu une sorte de chronique psychologisante de sa vie. Pourtant, le titre pointait vers justement une forme de ce que j'ai dit sur le film de Christian Petzold, Transit, c'est-à-dire quand on n'est pas regardé, est-ce qu'on existe tout simplement. Et bien sûr, a fortiori, ça se pose pour un acteur puisqu'il a besoin d'être regardé professionnellement. Et il y a une idée de mise en scène dans le film. À un moment, il... Ben si, une.
C'est déjà ça. C'est déjà beaucoup
à un
plus
moment, comme il est impécunieux, il vole dans un magasin. Il a l'habitude de voler des couches biologiques pour le bébé qu'il babysit dans un magasin. Et on voit les caméras de surveillance. Et dans n'importe quel autre film, on se dirait, voilà, il va se faire déporter, il va se faire arrêter et déporter. Et en fait, on s'aperçoit que rien ne se passe. Et finalement, on comprend qu'il y a ces caméras de surveillance, mais que personne ne les regarde.
Voilà. Nobody's watching.
Donc voilà, c'est un petit peu on a atteint le fond quand on est acteur et que non seulement personne ne vous regarde à l'écran, mais qu'en plus, même quand vous allez voler dans un magasin, personne ne regarde les caméras de surveillance. Je trouve que c'est assez beau. Mais pour le reste, j'avoue avoir peiné à trouver un intérêt. C'est-à-dire que la psychologie d'un personnage ne peut pas faire pour moi un film, quoi. Quelque chose qui ne tient pas là, dans ce qui lui arrive, avec aussi des mésaventures amoureuses qu'on va peut-être pas dévoiler entièrement.
Muriel Jodet.
C'est vrai que c'est un film très étonnant parce que c'est très ténu, c'est très modeste, c'est trois fois rien. Mais vraiment, on a l'impression d'avoir vu ça mille fois à la télé, au cinéma, partout. Pour moi, c'est Sex and City.
Dans les séries.
Voilà. Mais justement, le film ressemble à une série qui tiendrait sur un épisode. Mmh. Et moi, je l'ai vraiment regardé comme ça. Mais que je trouve très aimable dans sa modestie parce qu'il ne prétend pas à plus que de travailler une sorte de trivialité, d'anodin. Toutes les scènes sont extrêmement anodines. À chaque fois, on se demande mais pourquoi elle filme ça ? Pourquoi elle filme ça ? Et en même temps, les scènes sont très courtes. Ça qui est très beau, et peut-être tout à l'heure on parlera d'un film dont les scènes sont très longues. Là, vraiment, elle coupe quand on a compris. Et en même temps, on a compris pas grand-chose, juste qu'il est vexé par le mari de son ami dont il garde le gosse.
Qui est un méchant français.
Voilà, qui est un méchant français. Donc c'est des petits
français, quoi.
Voilà, c'est une succession de petites vexations. Il y a un côté presque bande dessinée. Et on se demande vraiment où ça va. Et ça ne va nulle part. Et c'est ça qui est assez beau, c'est que j'avais vraiment peur que le film se complaise dans le portrait du loser à New York, et pas du tout. Et là où je rejoins pas forcément Charlotte, c'est sur le côté psychologisant, parce que pour moi, l'acteur est toujours souriant. L'acteur est génial. Mmh. De toute façon, sur les trois films dont on va parler, j'aime beaucoup les acteurs. Et celui-ci est vraiment à quelque chose de solaire et de souriant, même quand ça va pas. Il tient le coup, on sait pas trop ce qu'il... Voilà, il encaisse. Mmh. Il passe son temps à encaisser jusqu'au bout. Et je trouve qu'il apporte quelque chose d'extrêmement juste au film. Et précisément là où il y avait un boulevard pour la psychologisation, la névrose, le célibataire à New York, l'acteur raté, les scènes sont tellement courtes que la cinéaste finit par échapper à tous les écueils qui étaient là, quoi, qu'on attendait. Et moi, je les ai tous attendus et elle arrive à tous les esquiver et ça m'a finalement assez plu, comme peut me plaire une très bonne série comme Sex and City par exemple, voilà.
Mais c'est vrai que quand je disais partager tout à l'heure, je parlais de mon sentiment, de garçon sur ce film Nobody's Watching, parce que il y a quelque chose qui se regarde sans déplaisir, parfois même avec une forme d'intérêt et d'empathie évidente pour ce garçon qui au côté de qui on est pendant tout le film, hein, on l'a expliqué déjà, à qui il arrive quand même des choses pas forcément très joyeuses. Il y a des moments assez assez tendre, assez beau, et on va reparler des enfants aussi pour parler du film Milan dans un instant. On a parlé de Allons enfants de Stéphane Demoustier la semaine dernière dans cette émission. Il y a quelque chose où, quand la présence de l'enfant n'est pas accessoire, mais est une personne ou un personnage réel dans le film, moi je trouve que c'est très bien tenu là dans ce film de Julia Solomonov. Et qu'il y a quelque chose qui existe du rapport entre cet homme un peu perdu et cet enfant forcément un peu perdu. Et puis c'est assez amusant ces séquences avec toutes ces nounous qui sont toutes des sans-papiers, plus ou moins comme lui. On va pas tout raconter, mais il y a une sorte de solidarité, de sororité qui se joue avec lui. Donc il y a quelque chose du genre aussi qui devient tout à coup très... qui interroge vraiment quelque chose d'aujourd'hui. D'ailleurs, on lui propose aussi du travail pour garder les enfants. Enfin, il y a quelque chose de... Tout le film, je me disais, bon, et alors ? Sauf qu'il y a une sorte de charme qui a opéré pour moi tout du long, et que, l'ayant vu, je me suis dit, bon, je l'aurais oublié demain, et c'est pas le cas. Enfin, il y a quelque chose qui reste. Mais j'aimerais bien que ce soit le pilote d'une série, moi, pour le coup.
Ça,
on aimerait bien voir les aventures de Nico. À New York ou ailleurs, chez votre garçon.
Alors, c'est quand même étrange de reprocher à Christian Petzold son
vague
politique. Non, mais je veux dire, et là, moi, je trouve qu'il y a notamment un enjeu politique autour de ces nounous qui sont au square, qui sont toutes d'Amérique centrale ou du Sud, et lui qui est aussi un latino, tel que lui, il le dit,
il
a dit « je suis latino », mais il n'est pas seulement blond, il est aussi argentin, et il n'est aussi... pas si impécunieux au départ, puisque c'est une star, vous l'avez dit, de série en Argentine, et pour une raison amoureuse qu'on ne dévoilera pas, c'est pour ça qu'il s'est exilé. Donc, j'allais dire, c'est quand même un déportable de luxe. Certes, son visa va expirer, mais il n'a pas encore expiré, et on voit très bien que les nounous au square, dès qu'il y a un petit accident au square, la police va arriver, elles se dispersent toutes, parce qu'elles, elles travaillent clandestinement. Alors ça, vous avez raison de souligner qu'il y a une espèce de touche assez légère sur cet aspect-là, mais d'un autre côté, cette légèreté ne permet d'éviter quand même une chose politique qui est la distinction entre son statut à lui et leur statut à elle, qui est faussement quand même assimilée. C'est pas du tout le cas, et notamment parce que voilà, être originaire d'Argentine, de la upper middle class argentine, voire avoir gagné pas mal d'argent, comme c'est vraisemblablement le cas en tant qu'acteur, c'est pas du tout la même chose.
Mais on pourrait dire que c'est pas évacué, puisque lui part tranquillement des parcs quand il se passe quelque chose, alors que les autres nous fuient.
Oui, mais ça c'est juste une petite séquence comme ça, et vous avez raison de dire que ce qui est souligné, c'est plutôt le côté cocasse du genre, du fait qu'il est dans une sorte de gynécée et que les femmes au début se moquent de lui, ou voire peut-être pensent qu'il est le père, etc. Et puis s'aperçoivent que c'est un travailleur entre guillemets comme elle, mais les guillemets sont quand même assez peu soulignés par le film.
Oui.
On voit bien que dès que des choses plus lourdes pourraient être en jeu, hop, il faut tout de suite glisser et rester dans une dimension uniquement psychologique et non pas politique.
Muriel ?
Oui, je comprends. Et en même temps, il y a à la fois donc ces nounous, et puis juste au-dessus, il y a ce New York gentrifié qui est insupportable, en fait. Et qui est lui...
New York n'est que
c'est
ça.
Donc, et puis, voilà,
Manhattan
c'est ça, exactement.
N'est que ça.
Et justement, au lieu de voir ce New York gentrifié par des... par les bobos, je suis désolée d'utiliser ce terme, mais c'est pour aller vite. Là, on a donc, du coup, une sorte de témoin qui glisse d'appartement en appartement, avec un appartement qui apparemment sert à la location, donc Airbnb, etc. Et donc, moi, ça m'a beaucoup plu, en fait, ce point de vue sur ce New York gentrifié que je ne supporte plus de voir au cinéma, et qui est assez répandu, par exemple, chez Ira Sachs, chez plein de cinéastes comme ça. Là, j'ai l'impression de voir un vrai commentaire sans qu'il soit appuyé. C'est juste là. On voit des gens qui sont à la fois très, très aimables et insupportables, et qui vivent dans des grands appartements, qui sont gentils avec Nico, et en même temps, bon, faut pas qu'il aille trop loin. Et justement, cette façon de glisser sur peut-être tous les messages que le film contient m'a assez plu.
Oui, moi, j'y vois plus de délicatesse que d'évacuation, voilà. À vrai dire. Mais bon, voilà, ce sont des perceptions différentes sur ce Nobody's Watching de Julia Solomonov, qui est sorti lui aussi mercredi dernier. Et là aussi, séquence bonus, c'est formidable. Et là, c'est Charlotte Garçon qui a envie de dire du mal d'un film.
nous avons la chance aujourd'hui de recevoir Castro. C'est quoi pour vous vieillir?
Je dirais avant tout atteindre une sorte de sérénité.
Qu'est-ce qu'il faut pas entendre?
Dis donc, on t'a entendu dans la voiture, tu nous as bien fait rire, hein. C'est Castro?
Mais qu'est-ce que tu voulais que je dise?
C'est pas possible.
Que je me sens comme une vieille merde, qu'à chaque fois que je me regarde dans la glace, j'ai envie de pleurer.
Mais ça va, m'agresse pas.
Mais c'est toi qui m'agresse, t'arrives, tu m'agresses.
Mais qu'est-ce que c'est beau ici?
T'as vu, à 35 minutes de Paris.
Et enfin, un vol d'oiseau. Hein.
Arrête avec ton vol d'oiseau.
Tu connais Biggie Star?
Ah oui, oui, bien sûr, j'en ai entendu parler, mais l'idole des enfants.
Et tu veux donc?
Qu'est-ce que je t'ai dit?
Qu'elle passe chez Castro?
Voilà.
Elle est sur le point de se faire expulser.
Elle est connue?
Non.
Et c'est la fille de quelqu'un de connu, elle couche avec quelqu'un de connu.
Non, c'est une afghane.
À part ça, t'as vu ce qu'on prend dans le bouquin de Nina?
À cause du postiche?
À cause du postiche, oui.
C'est une caricature. Ta jalousie, là, cette parano tout le temps, ça m'épuise.
Quand on vivait ensemble, tu me trompais avec la terre entière et t'as jamais posé de cas de conscience.
Petit sourire.
Tu te rends compte qu'ils m'ont proposé la carte senior, ces enculés, là.
Elle a là.
Alors, je doute que quiconque n'ait pas reconnu la voix de Jean-Pierre Bacri. Peut-être aussi celle d'Agnès Chéroui. C'est le film Place publique dont vous voulez parler, écrit et réalisé par Agnès Jaoui, écrit avec Jean-Pierre Macri, j'imagine en tout cas. Je ne l'ai pas vu.
Oui, c'était pour faire une petite alerte. Alerte Jean Renoir. Vous savez que
oh là là,
je tiens la chronique.
Sujet très sensible pour vous.
Oui, de la présence de Jean Renoir qui ne cesse de revenir dans le cinéma français. Et nous avions parlé à ce micro d'une autre comédie moyennement drôle, Le sens de la fête, de Toledano et Nakache, et qui...
Avec le même Jean-Pierre Macri.
Oui, tout à fait, et qui lance, me semble-t-il, une sorte de sous-genre de la comédie française, qui est le film Règle du jeu. Donc, occurrence numéro 2. C'est-à-dire que des bourgeois sont réunis dans une fête. Alors, en l'occurrence, il y a toujours un grand jardin, puisqu'on est toujours sur des grandes propriétés. On l'entend, c'est l'Ouest parisien, enfin la campagne de l'Ouest, mais qu'on est censé facilement rejoindre en voiture.
Mais est-ce qu'il y a un garde-chasse?
Presque, oui. Et d'ailleurs, vous le voyez dès le plan d'ouverture du film, puisque un type patibulaire avec un fusil débarque. On est vraiment dans quelque chose de citationnel, enfin. Et ce qui est très étonnant, c'est que Agnès Jaoui, qui a réalisé elle-même seule le film et non pas avec Bacri, dit voilà, ce sont des gens qui nous dansons sur un volcan. Et nous dansons sur un volcan, cette idée autour la société soit appauvrie, en crise, pleine de violence, etc. Mais des gens qui ont les moyens s'enferment et font la fête, oublieux du reste, évidemment. Et cette métaphore de danser sur un volcan a été employée par Jean Renoir en 1939, quand sort La Règle du jeu. Donc voilà, c'était un peu une alerte.
D'accord.
C'était un petit peu une alerte, mais alors... évidemment, on ne fait pas la règle du jeu qui veut, dans la mesure où il me semble que là, il y a une lecture de ce dispositif, c'est devenu un dispositif, ce film-là, c'est-à-dire le dispositif dans lequel il y a toujours un bouc émissaire, finalement, qui paye le prix de cette cohésion, de cette petite société. Et ici, il y a un autre, avec un grand A qui débarque, on le voit au début, parce que c'est un flash-forward au début, mais c'est tout simplement le voisin, et le voisin paysan, puisqu'on est à la campagne, et qui n'est pas content parce que lui, il se lève à 5 heures et que la fête, ça fait du bruit dans le jardin. Et ce qui est étonnant, c'est que la façon dont cet autre qui fait irruption est traité, c'est une caricature, non pas de paysan, mais une caricature de votant extrême droite, si vous voulez. Et très très vite, il est renvoyé hors d'état de nuire, quasiment, même s'il a un pouvoir de violence active. Et finalement, je me dis que ce type de film, en brossant des portraits très critiques de chacun des invités, bien sûr, on l'entend dans la bande-annonce, se condamne à une sorte de misanthropie qui touche tout le monde et qui égalise absolument tout. Donc là aussi, la force politique est auto-neutralisée par ce type de film, puisque tout le monde est renvoyé deux à dos, y compris le personnage entre guillemets principal, parce qu'il y a un côté très sexiste dans qui est le personnage principal du film, qui est joué par Jean-Pierre Bacri et qui est une évidente caricature de Thierry Ardisson.
Ah oui.
Voilà. Donc tout le monde est moche, tout le monde est méchant, tout le monde est un loser qui s'ignore encore. Il me semble que c'était pas du tout l'esprit justement de la règle du jeu, qui savait écrire un personnage ambigu, ambivalent, et qui était le personnage joué par Massad Dalio, le maître des lieux.
C'était l'alerte règle du jeu par Charles Garçon pour parler de Place Publique.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Et le cinquième, du coup, sujet de cette dispute cinéma ce soir en direct et en public du Bel Air, le bar de la Maison de la Radio, c'est Mila, le film de Valérie Massadian, qui est sorti lui aussi mercredi. Et c'est son deuxième long métrage. La réalisatrice nous propose de suivre donc Mila, logiquement, 17 ans au départ, qui est partie dans une petite ville au bord de mer avec un jeune amoureux, aussi jeune qu'elle, semble-t-il, Léo.
Toi la folle, toi petite coureuse, tu te casses la gueule et tu te relèves dans un rire, mais le rire c'est un crachat à la gueule du monde. Oh le sale rire, Mila, trop belle, Mila, super. Toi la bête, quand ça prend le dessus, quand ça vient au-dessus, les je m'en fous, allez vous faire foutre, allez y voir, j'aimerais bien vous y voir. J'ai lu une phrase et c'était comme toi, comme t'es quand tu parles pas. J'en ai assez de ce qui est joli, j'en ai assez de ce qui est intime, je vogue sur des tempêtes et je coulerai sans personne pour me sauver. Cherche pas Mila, tu couleras pas, tu flottes. Oublie tous les mecs qui marchent avec des tonnes de kilos dans les pieds. Je les vois, les mecs, ils se plantent. Ils croient qu'ils ont le poids sur les épaules, mais c'est dans leurs pieds. Et leur bouche, elle est dans leurs pieds aussi. Et les poings pour frapper, dans les pieds. Alors bien sûr, ça marche pas bien. Tu captes ? Attends, je recommence. On est là, on sait pas où on en est, mais on sait où on est partout ailleurs. On sait toi avec tes je m'en fous, je flotte. Moi avec mes pieds comme les autres. Un coup vers le fond, un peu vers le vent, hop là. Prends-moi, Mila, soulève-moi juste un peu. J'irai partout avec toi et t'invite qui tu veux, 1000 gamins si tu veux, les cheveux au vent qui chialent bien bien fort. Regarde, regarde, écoute Mila, écoute, fais comme tu veux. Bien sûr qu'autour ça se casse toujours la gueule en disant tiens-toi droite. Il suffit de bouger un tout petit peu, la tête, presque pas visible, pour que tout s'écroule, mais pas nous. Enfin tout ça tu sais déjà.
Alors je découvre au son la bande-annonce et je trouve que c'est un choix curieux car même si c'est un extrait du film, c'est un extrait très singulier, mais le film lui-même est très singulier. En tout cas on aura entendu la voix de Luc Chessel. Alors je disais au bureau, mais Luc Chessel, il critique à la Libération, aux Arocs. Non, c'est un comédien. Ben, c'est la même personne, en effet, Luc Chessel, qui est donc comédien et critique de cinéma. Naissance d'un acteur, Muriel Jodet.
On l'avait déjà vu.
Oui, je sais bien.
Chez Perceval et Clotte.
Pardon, ouais. Elisabeth Perceval, voilà. Nicolas Clotte.
Je voulais pas dire les Clotte, donc voilà.
Vous avez bien fait.
Et c'est vrai que le film aurait peut-être dû s'appeler Léo, même si très vite Luc Chessel et donc son personnage Léo disparaissent du film. Moi, c'est surtout lui qui m'a intéressée en termes de ciné-génie, de charme. C'est vraiment lui qui advient à l'écran et même chez Perceval et Klotz, je lui trouvais une présence. Et je suis un peu embêtée devant ce film parce que je constate un indéniable sens du cadre de Valérie Massadian, un sens de la composition. Puis j'ai pas été étonnée d'apprendre qu'elle était aussi photographe. Donc j'ai tout de suite pensé à Nan Goldin et puis côté cinéma à Kerman. Le premier plan est très beau, donc on voit le couple enlacé dans une voiture à travers une vitre très embuée. Et donc ça me tient, ce sens du cadre et de la composition me tiennent pendant une heure de film, et j'aime ce qui se passe entre le couple, ça m'intrigue, je sais pas encore où je suis, donc ça m'intrigue. Et puis, je pressens quelque chose qui me gêne et qui va finir par me gêner de plus en plus au fur et à mesure que le film avance. Et pour moi, il y a deux choses. D'abord, le constat que l'actrice ne m'intéresse pas du tout, qui pour moi, elle n'apparaît pas du tout à l'écran. Je parle pas de physique, hein, c'est-à-dire que je parle vraiment de présence, de charisme, de ciné-génie. Elle n'advient pas à l'écran et le film, la cinéaste, ne la font pas advenir à l'écran.
Et sachant que le film fait au total 2h05 et
voilà,
qu'il est rivé,
voilà, qu'il est rivé à elle et que donc Léo m'intéresse plus. Et puis cette durée qui est très mal gérée, c'est-à-dire que le film est libre, c'est un film d'auteur dans tout ce qu'on peut imaginer qui est le film d'auteur.
elle fait ce qu'elle veut et c'est bien, mais à un moment il faut que ça se tienne, c'est-à-dire que il faut savoir quand est-ce qu'on doit couper une scène. Et ce problème de mauvaise gestion du temps est quand même concerne tout le film. Et ne pas savoir gérer le temps, ne pas savoir quand couper un plan, c'est une question, c'est ce que doit savoir pourtant faire un metteur en scène, un cinéaste, et elle ne sait pas le faire. Et pour moi, tous les plans sont trop longs, tous les plans ne m'intéressent pas au bout d'un certain temps, et aurait dû être la durée aurait dû être divisée par deux voire trois. Donc voilà, j'ai imaginé le film ramassé sur 1h20 et je me suis dit qu'il n'aurait pas forcément perdu de sa substance, qu'il aurait quand même existé, ou 1h30, 1h40, mais pas 2h05, parce qu'au bout de 2h05, il y a une sorte d'épuisement et d'asphyxie qui s'installe, surtout que l'actrice est encore là, donc il y a durée plus actrice, c'était un peu trop pour moi, et donc je, voilà, au bout d'un moment, l'énervement a pris le pas sur les quelques qualités qui se sont diluées dans cette durée mal gérée.
Bon, je suis pas sûr d'être d'accord avec vous sur cette Judith Scotts, mais d'abord écoutons Charlotte Garçon.
Il faut peut-être aller plus loin en disant qu'elle ne sait pas où couper. Moi, je pense que c'est très conscient de choisir, de se focaliser sur des moments qui, de manière convenue du point de vue narratif, seraient des temps faibles, des petites choses que l'on fait dans la vie, qu'on remplisse une bouteille, qu'on coupe un oignon, etc. Et effectivement, qu'on repasse, puisqu'à un moment, le personnage travaille dans un hôtel comme femme de chambre et que Valérie Massadian apparaît elle-même dans le rôle d'un personnage de femme qui, plus âgée, qui travaille avec elle. Et ça, c'est vraiment un choix récurrent dans le film de faire étirer des moments apparemment anodins et plus que cela, de les transformer en rituels, de les filmer comme s'ils étaient des rituels de survie, quasiment. Et ça se voit dès le début, le couple qui est sur ce matelas, puisqu'ils squattent une maison et ils vivent quasiment toute la journée sur
le matelas. On fait tout sur
le matelas. Une sorte de ado de comme ça de une planche de salut et finalement toutes les petites choses qu'ils font prennent une signification pour eux à tel point que Mila rit et lui parle. Enfin c'est ça le et ça c'est assez insupportable et ça c'est la deuxième chose qui fait que ça n'est pas maladroit, c'est véritablement un choix. Je pense que il y a une double fascination de la metteuse en scène, d'une part effectivement pour la cinégénie extraordinaire et la présence grande sensibilité de Luc Chessel que l'on n'entend pas tellement d'ailleurs dans ce monologue qu'il a écrit lui-même face caméra, parce que vous l'avez dit, c'est un moment très hétérogène par rapport au reste du film, mais en tout cas, lui est du côté de la culture, du langage, de l'acteur qui sait ce qu'il fait, etc. Et puis de l'autre côté, sa petite amie, dont on ne comprend pas tout de suite qu'elle l'est, puisque la sexualité est évacuée entre eux, on croit d'abord qu'ils sont frères et sœurs, on ne comprend pas tellement pourquoi ça n'est pas montré, et elle est aussi l'objet, très clairement, d'une fascination, mais c'est un autre type de fascination qui mettrait, on ne sait pas pourquoi, et c'est là où moi je trouve que idéologiquement c'est un problème, qui mettrait le corps en avant. C'est-à-dire qu'il n'y aurait de vérité de ce personnage-là que son corps. Et à la limite, les mots, voilà, c'est un personnage qui, sans doute, de par sa condition sociale, n'a pas eu accès à des types de formulations. Filmer, si vous voulez, filmer des personnages de films, mère, hein, parce que c'est vraiment le projet du film, de filmer une fille mère, comme étant une sorte d'animal, et j'emploie le mot animal parce que j'ai vu le film présenté par sa réalisatrice et elle l'a appelé comme ça, un animal de survie, mais pour elle c'est extrêmement positif, sauf que moi en tant que spectatrice, je vois effectivement un regard fasciné par une forme d'animalité. Et je ne vois absolument pas pourquoi il n'y aurait pas d'accès à des formulations, à de la parole de ce type de personnage. Je vois bien le risque. Le risque, ce serait de faire un film social, etc. Mais ce sont des choix que je trouve quand même moralement vraiment très, très difficiles à avaler.
Non, mais peut-être qu'il aurait fallu que vous voyiez le film sans la présentation de la réalisatrice, parce que moi, je n'ai pas du tout ressenti ça comme ça. Il y a une première partie donc, avec Luc Chessel et l'actrice qui joue Mila, qui est très très belle, qui est aussi poétique que prosaïque et inversement. Enfin, il y a quelque chose de très que j'ai trouvé très beau. Mais la deuxième partie, alors je pense aussi que selon qu'on est parent ou pas, on ne la verra pas de la même façon, parce qu'il s'agit vraiment de qu'est-ce que c'est qu'un petit bébé, un bébé qui grandit, l'accès à la parole. Et moi, je trouve que là, c'est pas du tout dévalorisant, et bien au contraire pour Mila, de voir qu'est-ce que c'est qu'une mère avec un enfant, qu'est-ce que c'est que l'apprentissage du langage. Enfin, moi, j'ai vu des choses très belles, très simples. J'ai pas du tout vu le côté animal. J'ai vu un animal social, plutôt au contraire, mais quelqu'un qui accède à la parole, aux interdits, à la permission, à la tendresse, Oui, au corps, évidemment, mais je ne l'ai pas du tout vu comme ça. Et la liberté du film, dont la durée des séquences et la durée de cette émission qui s'achève bientôt, il faut que je regarde la pendule, j'ai mis cette liberté parce que, comme dans un film de Kiyoshi Kurosawa, on voit même apparaître des fantômes, et ça, ça m'a beaucoup plu également. Et puis cette scène du vernis à ongles qui vient aussi rejouer quelque chose. Il y a des choses toutes délicates, toutes fines, que moi, j'ai beaucoup appréciées, et je ne peux pas en dire beaucoup plus, puisqu'il est l'heure de conclure cette séquence consacrée à Mila, film intrigant de Valérie Massadian. Alors, sur la durée, bon, on aurait pu disserter à un certain moment, mais la durée de cette émission touche à sa fin. Avant de conclure l'émission, Camille André nous a rejoint, qui va tout d'abord nous rappeler la question du jeudi hier soir et nous donner sa réponse.
Alors la question hier était: quel est le titre du roman autobiographique écrit par Léo Ferré? Et c'est Benoît Misère.
Ce soir, des invitations à gagner pour l'exposition Couple moderne au centre Pompidou-Metz, exposition jusqu'au 20 août. Quelle est la question?
Eh bien, quels sont les deux cinéastes français qui ont formé un couple prolifique lors de la Nouvelle Vague sans pour autant n'avoir jamais réalisé de film ensemble?
Oh, votre réponse avec vos coordonnées postales envoyées à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, site sur lequel vous pouvez réécouter cette émission et bien sûr vous abonner au podcast. Rendez-vous lundi à 19h, dispute spectacle vivant. On sera en compagnie de Fabienne Pascaud, Marie-Josée Sérache et René Solis. À notre affiche, L'éveil du printemps de Franz Wedekind, mise en scène par Clément Hervieux. Léger, c'était la Comédie française. Un pollo rojo, chorégraphié par Luciano Rosso et Nicolas Poggi, mise en scène Hermès Gaido. C'est en ce moment au théâtre Antoine. Et puis, 1336, paroles de Fra Lib, écrit, mise en scène par Philippe Durand, au théâtre de Belleville.